terminer et commencer la semaine, écoutez Cyril Ekuala et son équipe. Né au Québec tous les dimanches de 15h à 17h sur CIBL.
Voilà, je vous présente nos deux invités. J'ai en face de moi Laurie Beaudonnet, qui est professeure sciences politiques au département de sciences politiques de l'Université de Montréal, qui est aussi la directrice du centre Jean Monnet de Montréal. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation pour parler de ce qui se passe en France et qui a des répercussions, d'énormes répercussions. On va essayer de comprendre pourquoi. Mais vous n'allez pas être toute seule pour en parler, puisque à vos côtés, Nolioué Delannon, qui elle est professeure de gestion internationale à l'Université Laval. Bonjour Nolioué.
Bonjour Cyril.
Plaisir de vous retrouver. On se voue ou on se tue?
À ta guise, moi je suis à l'aise avec le tu, mais...
Bon, je pense qu'on va se tuer, hein? Uh-huh. On va se tuer alors. On va se tuer. Voilà, on va parler de ça. Oui, Nolio, j'ai dit gestion internationale, mais j'ai envie de dire très politisé. Est-ce que je peux dire ça? Très politisé comme ça, hein? D'accord. Mm-hmm. Et puis, au bout du film, Salimatou Ismaël Tonkaré est là. Bonjour Salimatou.
Bonjour Cyril.
Comment ça va?
Bien, plus vieux ici aussi, mais ça va bien.
D'accord. Qui aujourd'hui n'est pas là pour nous parler de relations internationales, quoique, mais surtout pour intervenir dans cette merveilleuse discussion que nous allons avoir, parce que d'une manière ou d'une autre, ce qui se passe en France a de l'impact sur toi, parce que c'est quand même ton pays, et donc ça te concerne.
Ça me concerne.
D'accord. Merci d'être là. Oui, mesdames... est-ce que je peux parler de séisme? Tout le monde en a entendu parler le 9 juin, exactement. Élections européennes qui ont lieu à peu près tous les 5 ans. Voilà. Les résultats ont été catastrophiques. Moi, je dis catastrophiques aux yeux du président français qui, dans la foulée, on n'avait même pas fini de décrypter les résultats, qu'il a décidé de dissoudre l'Assemblée nationale. Pourquoi? Parce que le Rassemblement national était en tête de ces élections et lui, il a dissous le Parlement, du moins l'Assemblée nationale française, a invité les Français ils sont invités à aller voter le 30, premier tour, et le 7 juin. Le 7 juillet, pardon, oui, le 30 juin et le 7 juillet. Et depuis lors, ça va dans... Je vais me permettre cette familiarité-là, ça va un peu dans... tous les sens, de grandes discussions, frayeurs pour certains, on appelle au rassemblement, voilà, il faut faire barrage au rassemblement national. Avant qu'on ne rentre dans ce que j'appelle, et ça a des répercussions, j'ai envie de dire chez nous aussi ici, toute la presse internationale a parlé de ça, mais avant qu'on en arrive là, je voudrais, je vais la poser de manière très simple. Comment est-ce qu'on arrive à ce que le Rassemblement national soit en tête des élections en France? Ça, c'est la première question. Mais peut-être pour ceux qui ne savent pas, nous, on est ici au Québec, avant de répondre sur le Rassemblement, les élections européennes, c'est quoi les élections européennes pour nous qui sommes ici au Canada? Qu'est-ce qu'elles représentent exactement, Laurie Beaudonnet?
Oui, alors les élections européennes, c'est les élections pour le Parlement européen, qui est une des deux chambres qui vote les lois au niveau de l'Union européenne, donc cette union qui rassemble 27 pays européens, dont la France. Donc c'est un moment où les 27 pays, les citoyens, citoyennes, élisent leurs parlementaires. Ce sont des élections qui, en général, on appelle des élections de deuxième ordre, c'est-à-dire qu'elles sont considérées comme moins importantes par les citoyens, citoyennes, les électeurs, et par les partis politiques, parce que c'est pour le niveau européen et pas le niveau national. Et là, pour la première fois, dans le fond, puis c'est ça aussi quand on parle de séisme, le scrutin a été nationalisé par le président de la République française lui-même, au sens où souvent les partis d'opposition vont essayer de nationaliser parce qu'ils vont essayer de mobiliser les électeurs contre le gouvernement en place. Mais là, c'est la majorité présidentielle elle-même, en fait, qui a nationalisé ça. C'est un gros changement.
Nationaliser le débat, ça veut dire que les débats n'ont pas porté sur les questions européennes, sur les enjeux européens, mais plutôt sur les enjeux nationaux, c'est ça?
Oui, exactement. Mais souvent... traditionnellement, ça apporte toujours quand même sur les questions nationales, à la fois parce que les partis politiques font campagne dans ce sens et parce que pour les électeurs, c'est des enjeux qui les concernent de plus près. Mais c'est complètement inédit qu'en ayant essuyé une défaite, le parti au gouvernement, ben, en tout cas le président de la République, décide d'agir sur la base de cette défaite, parce que c'est quand même une régularité en général à toutes les élections européennes, quasiment, le parti au gouvernement a une défaite. Okay. C'est les partis d'opposition qui vont gagner le scrutin au niveau aux élections européennes. Mmh. Mais c'est la première fois que le président de la République décide de prendre acte de ça et d'agir derrière.
Mmh. Est-ce que vous avez été déçu par la réaction du président français Nollywood?
Mais ce que dit Laurie est très important parce qu'effectivement, il y a une rupture. On est dans une situation de rupture et cette rupture, elle est décrétée par la parole présidentielle. Effectivement, comme Laurie le disait, ces élections-là européennes, je veux dire, personne ne pouvait raisonnablement s'attendre à ce qu'elles aient cet impact-là sur la politique nationale. Et donc, c'est une décision solennelle du président de la République que de décréter que les résultats des élections vont avoir pour conséquence une dissolution de l'Assemblée nationale, alors que, je veux dire, tout, ce n'est pas une surprise en soi. Il y a d'abord la trajectoire historique de la montée de l'extrême droite en France, en Europe et dans le monde. Donc, on n'est pas surpris des résultats à proprement parler. Mmh. Le président de la République française dit que c'est un séisme au point où il décide de dissoudre l'Assemblée nationale. Mais c'est la construction d'une anomalie qui n'en est pas tant que ça. Et c'est ça qui est particulièrement intéressant, cette décision politique, elle a toutes sortes de justifications qui sont présentées, mais en réalité, c'est cette décision-là, et non pas le résultat des élections européennes, qui est la véritable anomalie et le véritable séisme.
Le terme anomalie, vous partagez ce terme-là ?
Oui, parce qu'effectivement, si on regarde dans le temps long, à la fois les logiques de vote pour le Rassemblement national et de manière générale sur l'extrême droite en Europe, je partage tout à fait ton avis, c'était tout à fait attendu que le Rassemblement national fasse ce score-là. Il a même, de manière générale, au niveau européen, l'extrême droite a même un peu moins bien performé que ce à quoi on pouvait s'attendre sur la base des sondages. Mais dans le fond, je pense qu'une cette anomalie-là, elle est construite en regardant ce qui s'est passé dans la politique française ces deux dernières années, et notamment les difficultés qu'a rencontrées le gouvernement actuel, et qui est donc du coup le président de la République a un peu pris ce prétexte-là, en fait, pour prendre cette décision. Mais il y avait aucune raison institutionnelle ou politique, parce qu'on ne parle pas du tout du même gouvernement. Si on peut faire une analogie, c'est un peu comme si demain, les prochaines élections, Monsieur Legault perd, enfin en tout cas non, en fait, il n'y a même pas d'analogie.
Il n'y a pas d'analogie.
Vous voyez ce que je veux dire, c'est que c'est comme si les élections au niveau fédéral avaient un impact sur les élections au niveau provincial, si on avait les mêmes partis, admettons.
Avec un, il y a eu un taux d'abstention, un taux d'abstention de 51,9%. Soit dit en passant, j'ai face à moi là quand même des électrices françaises. Salimatou ?
Oui.
Salimatou, est-ce que tu as voté ?
Oui, j'ai voté.
Oui, tu as voté, d'accord.
J'ai voté par procuration, mais j'ai voté.
Tu as voté, ok. Est-ce que, surprise par les résultats ?
Excuse-moi, j'ai pas entendu.
Est-ce que tu as été surprise par ces résultats-là ?
Non. On savait très bien qu'effectivement, c'est l'usage que le président, ou en tout cas le parti majoritaire au pouvoir, ne remporte pas les élections au moment justement de l'élection des européennes. Donc on savait qu'il allait être battu à plat de couture. Ce qui a été dit tout à l'heure est parfaitement juste, c'est que Macron, le président français, a vraiment engagé sa responsabilité et la responsabilité de son gouvernement sur ces questions-là au niveau européen. Et ça, c'est inédit. On a parlé effectivement de la décision qui est quand même assez surprenante parce qu'il n'était pas forcé. Et Macron est actuellement isolé. Il est très critiqué par l'ensemble de la classe politique française, mais aussi dans son propre camp. Donc, oui.
Je reviens ici en studio. Est-ce que vous avez voté, vous? Oui.
Et puis, il faut quand même rappeler que de manière générale, comme disait Laurie, les élections européennes sont des élections de deuxième ordre. Et il n'empêche qu'on a un taux de participation qui est supérieur à ce qu'on a vécu sur les 20 dernières années.
Oui, tout à fait.
Mais les 30 même, parce que je pense que la dernière fois, c'était en 94 qu'on avait un score aussi élevé. Donc, il y a une tendance à la baisse de la participation. Sur les 30 dernières années, cette année, en 2024, on a une hausse de la participation. Donc oui, en soi, ça veut dire quelque chose, ce scrutin-là. Mais convoquer des élections 3 semaines plus tard à l'échelle nationale, c'est un petit peu je veux dire, on peut raisonnablement penser qu'on va reproduire la même chose. Mmh. Je veux dire, il n'y a aucune raison de s'attendre à un résultat différent. C'est le même électorat, le même corps électoral. La participation, oui, va être supérieure, hein, mmh. mais il demeure que c'est comme un très bon échantillon. Mmh. Donc, il y a quand même une participation significative à ces élections-là. Mmh.
Si je peux me permettre, Cyril,
oui.
C'est sûr que pour le résultat qui est attendu dans deux semaines, on ne s'attend pas à un sursaut républicain. Là. On a assez peur, effectivement, de voir peut-être assister à une cohabitation avec le Rassemblement national qui arriverait, effectivement, à l'Élysée. Mais il y a tellement de frustrations qui ont été accumulées pendant les deux quinquennats, j'ai envie de dire, de Macron. Donc, on a eu la période des Gilets jaunes. On a actuellement des durcissements des conditions d'indemnisation pour percevoir le chômage ou encore des radiations qui sont encore plus rapides du Pôle emploi. L'année dernière, on a eu les émeutes, une énième émeute de la jeunesse avec le décès du jeune Naël, ce franco-algérien de 17 ans. La guerre en Ukraine également, qui affecte tout le monde, mais qui s'est surtout manifestée par une augmentation considérable des prix, et notamment du gaz. Puis la situation explosive à Mayotte, où 77% de la population mahoraise vit sous le seuil de pauvreté. Donc c'est sûr qu'au niveau du résultat, les gens vont exprimer leur frustration au moment du vote.
Mmh. Alors, on a parlé, effectivement, Salima Tour me permet de faire un peu la transition. On a parlé, les différents thèmes ont été le pouvoir d'achat. Beaucoup de gens en ont parlé, le problème de pouvoir d'achat et l'immigration. Ce qui me permet de parler un peu du loup dans la bergerie, si je peux dire ça comme ça. Le Rassemblement national qui arrive en tête et qui crée donc ce séisme-là. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde le sait, le Rassemblement national en France, c'est l'ancien Front national. Comment le Front national, le Rassemblement national arrive, comment on en arrive là, comment il arrive en tête? Avec, déjà, il est à l'Assemblée, disons-le, il est représenté à l'Assemblée nationale française, et là donc, il gagne les élections. Comment on en arrive là? Voilà, je veux vous entendre un peu là-dessus. Oui, Laurie?
Ok. Je dirais, il y a deux facteurs, okay. On peut dire. Le premier, c'est la stratégie de dédiabolisation et de communication qu'a mis en œuvre Marine Le Pen au moment où elle prend la tête du parti il y a maintenant plus de 10 ans, et où elle va mettre de l'avant un programme national socialiste, n'ayons pas peur des mots, parce que ça pointe aussi vers les origines et la culture du Front national qui est resté aussi au Rassemblement national, qui penche très fortement vers les nostalgiques de la collaboration avec les nazis, avec tout ce que ça comporte de xénophobie, d'antisémitisme et de racisme. Mais elle va en fait donner au Front national une dimension sociale qu'on voit par exemple ces dernières années dans leurs promesses en lien avec la retraite, envers certaines promesses sur plafonner le prix de l'énergie. Donc il y a une dimension sociale que le Front national n'avait pas avant. Puis ça leur a vraiment servi à aller chercher une très grosse partie du vote populaire, des catégories, des personnes qui ont beaucoup de mal à boucler leur fin de mois. Après, on pourra rediscuter dans quelle mesure c'est en grande partie de la communication aussi. Et la deuxième dimension, c'est que quand on regarde clairement la trajectoire montante du Rassemblement national au cours de ces 15 dernières années, parce que par exemple, c'est pas la première fois qu'ils arrivent premiers. Déjà aux élections européennes de 2019, c'était premier parti.
Déjà, en fait, oui.
Ils ont envoyé 89 députés à l'Assemblée nationale en 2022. Donc je dirais, on a passé, dans le fond, pour moi, la ligne rouge de l'extrême droite dans le système politique. Elle a été passée déjà, a été franchie en 2022. Mais si on regarde, donc on a un vote pour l'extrême droite qui n'arrête pas d'augmenter. Et si on regarde en même temps les attitudes des citoyens, citoyennes, et je ne parle pas des électeurs, là je parle bien des Français dans leur ensemble, les attitudes en faveur de la diversité, en faveur de l'immigration au cours de ces 40 années ont en fait augmenté. Donc en fait, ce n'est pas nécessairement vrai que la population française est davantage xénophobe qu'avant, mais en fait, les jeunes s'abstiennent massivement de voter aux élections. Et donc, cette partie de la jeunesse qui est davantage inclusive, pour qui le multiculturalisme, la diversité ethnique, ce sont des forces de la société française, cette jeunesse-là, elle ne va pas voter. Mmh. Et en revanche, le Front National a gagné énormément de voix dans les catégories qui sont plus conservatrices et qui, elles, votent davantage.
Tout à fait.
Donc, on a ce décalage-là qui explique.
Je veux vous garder la parole. Tu gardes Laurie Bonnet, je veux que tu gardes la parole parce que tu as dit extrême droite. Il y a ce débat en ce moment. Est-ce que le Rassemblement national est d'extrême droite? Il y a ce débat aujourd'hui, notamment dans les médias BFM. Est-ce que le Front national, est-ce que le Rassemblement
national... Je pense que c'est correct, à dire Front national, Rassemblement.
C'est la même chose, Laurie parlait de communication. Est-ce que ce parti est d'extrême droite?
Oui. Pour moi, on le voit à plusieurs points. Un, c'est un parti qui se base encore idéologiquement sur les deux constantes de l'extrême droite, c'est-à-dire une posture nativiste, donc le fait de revendiquer qu'à l'intérieur d'une société, il faut que la société soit homogène ethniquement et que seules les personnes qui sont de parents, même français, ont droit de citer. Là, dans le fond, ça, et le Rassemblement national, comme le Front national avant, est très fortement axé là-dessus. On peut le voir dans les promesses qu'ils font, notamment de différencier en termes de droits entre les Français dits de souche et les Français d'origine étrangère. Donc ils sont nativistes. Ils mettent aussi, donc il y a une dimension nationaliste extrêmement forte qui va avec ça. Et la deuxième dimension de l'extrême droite, c'est ce qu'on va appeler les valeurs traditionalistes. Et donc là, encore une fois, ce n'est pas seulement traditionnel, ce n'est pas seulement du conservatisme, ça va plus loin. Et là, ça va toucher à tout ce qui va être la question du droit des femmes, la question des droits pour les minorités LGBTQI+, où là encore, quand on regarde les positions, à la fois dans les professions de foi, des candidats RN et aussi dans les votes à l'Assemblée nationale et au Parlement européen, ils sont clairement traditionnalistes. Mmh. Et pour moi, cette conjonction des deux, ça en fait un parti d'extrême droite sans ambiguïté.
Sans ambiguïté. Nolioué, pourquoi est-ce que, je vais essayer d'aller, pourquoi est-ce que c'était pas l'élection, mais la dissolution, par exemple, par Macron, le Rassemblement national que certains voient déjà le 7 juillet au soir à Matignon, sauf si il y a, Salima tout disait, il n'y aura pas sursaut. Pourquoi est-ce que ça fait autant de... Pourquoi ça a autant d'impact dans le monde, autant de bruit? Pourquoi ça fait autant de bruit? Pourquoi ça intéresse tant de monde hors de la France?
Alors d'abord, je pense que pour faire un peu un lien avec ce que Laurie vient de dire, autant il y a une confusion dans le discours autour de est-ce que c'est des partis d'extrême droite. Ils ont été dédiabolisés avec l'aide, le soutien des médias, très très actifs. Donc un espace donné à leur prise de parole, une normalisation de leur discours. Et la confusion, elle vient aussi sur le fait que, en fait, quand on regarde les clivages politiques de plus en plus aujourd'hui, et puis il y a des travaux très intéressants qui étudient ça, notamment ceux de Thomas Piketty, on voit que l'axe a changé. On n'est plus juste sur de la gauche-droite. Et Laurie parlait tout à l'heure de politique, en tout cas de discours orienté vers des politiques sociales, mais néanmoins nativistes. Donc, on peut parler de social-nativisme dans le cas de l'extrême droite française, donc en particulier du Front national / Rassemblement national. Et ça, ce n'est pas propre à la France. Ce glissement-là, on l'observe à l'échelle internationale. Donc on a vu de nombreuses figures être élues ces dernières années. Aux États-Unis, évidemment, on pense à Donald Trump, qui est sur le point de revenir, très, très vraisemblablement. Mais on le voit aussi, on l'a vu au Brésil, avec quelqu'un comme Jair Bolsonaro. Il y a un nombre de... Même Narendra Modi en Inde. Donc il y a cette logique-là qui prend de l'ampleur et qui permet à des figures telles que celle-là d'émerger et de s'installer aux commandes du pouvoir, de prendre le contrôle des institutions publiques. Donc, ce qui se passe en France, je pense que ça dit beaucoup sur l'état du monde actuel. Et évidemment que, y compris au Québec, on n'échappe pas à ces tendances lourdes-là qui brouillent les frontières, qui font en sorte que, des gens effectivement de classe populaire adhèrent à une partie au moins du discours du Rassemblement national / Front national, parce qu'il y a cette idée de... Et puis aussi parce que la gauche s'est perdue, il faut le dire. La gauche s'est perdue, elle a cessé d'être un parti des masses populaires, elle est devenue un parti des plus diplômés, des couches les plus instruites, qui pour certaines ont du patrimoine, etc. Et on a délaissé des couches populaires de telle sorte qu'un discours social, mais réservé à la catégorie de la population qu'on juge digne d'être reconnue comme française, mm-hmm. Même si ça leur est réservé, mais ça leur parle à ces gens-là qui ont été complètement délaissés par la classe politique française.
Est-ce qu'il n'y a pas aussi une responsabilité entre guillemets d'Emmanuel Macron lorsqu'il ramène tout au centre en disant ben ni gauche ni droite, je fais tout au centre. Est-ce que c'est pas ça qui ouvre la porte justement à cette montée de l'extrême droite?
Puis il y a quelque chose quand même qui est extrêmement troublant, c'est à quel point, quand vous voyez, parce que dire qu'il faut tenir compte, prendre les leçons, tirer les leçons des élections européennes venant d'Emmanuel Macron qui en fait a gagné ses élections en 2017 et en 2022 grâce à la gauche, grâce à l'électorat de gauche qui s'est mobilisé massivement pour faire front, pour faire barrage, mmh. et qu'aucune de ces politiques publiques n'a été de gauche. Toutes ces politiques publiques ont fait la démonstration que c'était un parti de droite de plus en plus extrême, au point où la loi immigration de 2024, je veux dire, a été saluée uniquement par l'extrême droite. Même le camp d'Emmanuel Macron a compté sur le Conseil constitutionnel pour censurer cette loi. Donc il n'y a que le Rassemblement national, slash Front national, qui se félicitait de cette loi-là. Je veux dire, les conséquences, les leçons à tirer des résultats électoraux nationaux n'ont jamais... Enfin, je veux dire, les leçons à tirer n'ont jamais été tirées par Emmanuel Macron. Au contraire. Donc, c'est un petit peu étrange aujourd'hui de venir dire... Évidemment que j'entends l'appel des Français et que je dissous l'Assemblée, le Parlement. Je veux dire, l'Assemblée nationale.
Un autre... Vous voulez quelqu'un
ah, oui, si je peux rajouter, rebondir oui. là-dessus, abonder dans le sens de...
Et Salima Tou, si tu as une réaction, oui. n'hésite pas.
Hein. Si j'ai une réaction par rapport à ça.
Oui, d'accord. On t'écoute alors, vas-y.
Moi?
Oui, Salima Tou, vas-y. Oui. Juste avant qu'on aille à la pause.
Pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, c'est absolument vrai. C'est vrai que Macron, quand il s'est présenté en 2017, il avait dit justement aux Français qu'il fallait qu'on dépasse le clivage gauche-droite et qu'il fallait qu'on fasse vraiment une politique peut-être plus centriste. Et depuis qu'il est arrivé, nous, on assiste effectivement à une politique de plus en plus droite, voire d'extrême droite parfois. Et la loi sur l'immigration en est le résultat. Oui. Sa posture aussi très autoritaire, son discours aussi très, très ferme. On favorisait justement le Rassemblement national. Donc quand vous avez justement des partis politiques qui s'accoquinent avec les idéologies du Rassemblement national et que la rhétorique, tout à l'heure ça a été dit par madame, c'est sûr que les médias ont laissé un boulevard, un champ libre justement à cette démocratisation, cette libéralisation de la parole raciste en France. On a invité sur tous les plateaux les Éric Zemmour, les Bardella et ainsi de suite. Donc c'est sûr que maintenant on a une sorte de insensibilité finalement à ce discours un peu nauséabond qui a déjà été amorcé par Nicolas Sarkozy déjà à l'époque.
Mmh. Donc, on est comme dans une espèce de continuité.
C'est une continuité, mais c'est parce qu'ils ne tirent pas les leçons, justement. Ils n'entendent pas les revendications, les souffrances de la population française. Donc, à un moment donné, les Français se disent, nous, on a essayé la droite, on a essayé la gauche, on a essayé le centre. Puis finalement, pourquoi pas essayer l'extrême droite ?
L'extrême droite, tout à fait. Merci, Salima Tou.
Néo-Québec, c'est rafraîchissant.
Voilà, vous êtes toujours à l'écoute de Néo-Québec où nous discutons de la situation politique en France et de ses répercussions, on va appeler ça, de ses incidences un peu sur le reste du monde, dont nous au Québec. Et pour en parler, depuis le début de l'émission, j'ai en face de moi Nolioué Delannon, qui est professeur en gestion internationale à l'Université de Laval. Laurie Baudonnet, à côté de moi, qui est professeur en sciences politiques à l'Université de Montréal. Et on a à Québec Salima Tou Ismaël Tounkara, qui est en relations internationales à l'Université Laval aussi. Bref, l'Université Laval est représentée. Repartons, mesdames. J'ai une question pour vous. On parlait de débat, on parlait des médias. Depuis un moment, on a parlé de dédiabolisation du Rassemblement national. Je vais me concentrer pour arriver à dire, ne plus dire Front national jusqu'à la fin de notre échange. Il y a un autre débat. En ce moment, pendant cette campagne, c'est que pour faire front, parce que finalement, il faut faire front à ce Rassemblement national qui selon les sondages, est en passe de prendre, de gagner les élections, donc d'aller à Matignon, de fournir le Premier ministre et d'amener la France à une cohabitation, comme on l'a appelé. Mais entre-temps, il y a un débat. Donc pour faire front, on a de l'autre côté, vous voyez, je dis de l'autre côté, je suis en plein mimétisme là, on a le Front populaire. Et tantôt, on va dire les choses comme elles sont. Laurie, tu étais en train de dire, attention, le Front populaire est une coalition. On ne peut pas dire extrême droite versus extrême gauche. Alors que c'est quelque chose qu'on dit même dans les médias québécois ici.
Oui. Tout à fait. Puis avant de venir à la définition, dans le fond, de où on met le nouveau Front populaire, je voudrais peut-être souligner ce qui a été dit, je pense, tantôt. Je pense que c'était Nollywood qui le disait, ou même Salim Atou, sur le fait, dans la mesure où Emmanuel Macron et son parti ont gagné les deux dernières élections, ils les ont gagnées notamment avec les voix d'une partie de l'électorat qui faisait barrage à l'extrême droite et en appelant notamment à dynamiter l'axe gauche-droite pour juste... Le parti des Lumières versus les gros méchants de l'extrême droite, dans le fond. Mais dans le fond, c'est aussi il continue en fait sur cette lignée de renvoyer dos à dos l'extrême droite du Rassemblement national et ce que à la fois Emmanuel Macron, mais aussi le Premier ministre, puis les différents partis qui sont associés à la majorité présidentielle présentent comme l'extrême gauche. Ce que ce n'est pas, le nouveau Front populaire est une alliance du Parti socialiste, qui est donc un parti social-démocrate. Je pense que si on peut faire une critique au Parti socialiste ces 15 dernières années, ce qui explique aussi leur dégringolade dans les urnes, c'est de n'avoir pas été suffisamment, d'avoir été trop tempéré.
Ce que disait un peu Nollywood en disant la gauche, tout à fait.
D'ailleurs, l'ancien président de la République, François Hollande, est lui-même candidat. Et face à ça, la majorité gouvernementale soutient le candidat des Républicains, c'est-à-dire parti de droite classique qui tente de subsister, donc ça dit quelque chose aussi, sur les choix de la majorité. Donc les Verts, la France insoumise et le nouveau parti anticapitaliste, le parti communiste aussi, pardon. Et ces cinq partis, en fait, ne sont pas des partis qui se revendiquent de la révolution ou de quelque chose, d'un renversement des institutions, mais ce sont des partis qui se revendiquent d'une politique, oui, de gauche, pour certains de gauche radicale, c'est-à-dire d'aller plus loin que le Parti socialiste, mais on n'est pas sur de l'extrême gauche. L'extrême gauche en France, par exemple, c'est Lutte ouvrière, qui est un parti trotskiste, qui met de l'avant l'insurrection pour prendre le pouvoir. C'est quelque chose de différent.
C'est complètement différent.
Tout à fait.
En même temps, je veux qu'on parle vraiment de l'incidence de tout cela sur le Québec, mais je veux revenir sur quelque chose. Oui, cette gauche-là, qui s'était perdue un peu, ou voilà, aujourd'hui, on appelle au nouveau Front populaire. Je rappelle quand même, et je vais peut-être me tourner vers Salim Atou, c'est la gauche qui vote, par exemple, une loi qui, pour moi, est une voie de droite. Qui est, par exemple, c'est la déchéance de la nationalité. Ça, c'était la gauche qui a voté ça. Est-ce que pour autant, est-ce qu'on ne leur fait plus confiance, Salim Atou?
Ils l'ont pas voté, mais c'est sûr qu'elle a été proposée par François
Hollande. Proposée.
Elle a été proposée par François Hollande et ça a fait choc au sein de l'électorat, puisque pour un président de gauche, proposer une telle réforme qui a toujours été une réforme qui a été avancée par Jean-Marie Le Pen déjà à l'époque, tout comme aussi, mettre fin au droit du sol, qui est déjà maintenant en expérimentation dans le département de Mayotte. Donc, c'est un peu la politique des petits pas. Et c'est sûr que pour les Français, on a été très surpris en disant, mais attendez, c'est-à-dire qu'un Français, un binational aurait la possibilité d'être déchu de sa citoyenneté en fonction d'une amende,
d'une faute de délit, un truc.
Mais quand on disait ça par rapport justement aux émeutes des banlieues. Cette loi ciblait forcément la jeunesse issue de l'immigration.
C'était les attentats terroristes. La déchéance de la nationalité proposée par François Hollande, c'était au moment des attaques terroristes
de
novembre 2015. Donc ça n'enlève pas le choc, je pense, pour la gauche et pour l'électorat, si je puis me permettre d'intervenir. Mais ça n'a pas du tout le même sens que la déchéance de la nationalité proposée par la droite, je pense, de manière plus générale. avec n'importe quelle peine dans le fond. Je pense qu'on peut, c'était très circonscrit quand même.
D'accord.
Mais je voulais préciser ma pensée tout à l'heure quand je te disais qu'il n'y aura pas de sursaut républicain.
Oui.
Je disais ça parce qu'en 2002, quand on a eu le vote, l'élection présidentielle Chirac contre Jean-Marie Le Pen, puisque Lionel Jospin n'est pas arrivé au deuxième tour, là, effectivement, les Français avaient fait barrage déjà à cette époque-là contre le Front National. Deuxième élection présidentielle en 2017, on a eu aussi encore le remake Macron contre Marine Le Pen, où elle arrivait quand même avec 33% des suffrages exprimés au deuxième tour. Là encore, les Français s'étaient mobilisés pour faire barrage au Rassemblement National. 2022, Macron contre Marine Le Pen, encore une fois, il fallait faire barrage contre le Rassemblement National. Donc à chaque fois, il faut faire barrage contre le Rassemblement National, mais les politiciens n'entendent pas justement ou ne tirent pas les leçons de la montée du Rassemblement National qui séduit de plus en plus et non pas simplement le vote ouvrier comme fut le cas à l'époque de Jean-Marie Le Pen. C'est en raison de ça que je dis que cette fois-ci, en tout cas la semaine prochaine, il est peu probable qu'on assiste à un sursaut républicain où il faut encore faire barrage contre le Rassemblement National.
Oui, je comprends la logique. Laurie, tu voulais ajouter quelque chose ?
Oui, je voulais rebondir sur une chose que Salim Atou, vous venez de dire, sur la question du barrage républicain. Effectivement, à toutes ces échéances-là, ce qu'on remarque quand même, c'est à quel point la droite, puis là on en parle un peu moins parce que les Républicains a beaucoup diminué au fil des dernières années, mais à quel point la droite, petit à petit, a arrêté de jouer ce jeu-là du barrage républicain, c'est-à-dire de dire, face à un candidat du Rassemblement national, si on est en troisième position au deuxième tour, on retirera on favorisera le candidat de la gauche. Et actuellement, et le camp de la majorité, ce qui est quand même assez, compte tenu du discours anti-extrême que se donne Emmanuel Macron, c'est assez... malhonnête intellectuellement, on pourrait dire, donc de refuser de retirer l'éventualité de retirer des candidats face à un candidat du RN qui sera en première position. La droite est traversée depuis longtemps par cette division-là. Puis là, on l'a vu exploser avec le président des Républicains qui a tout de suite décidé d'aller faire alliance avec le Rassemblement national. Et donc tout ça pour dire que je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Salim Atou, il n'y aura pas de sursaut républicain parce que je pense que la gauche, en fait, a joué ce jeu très très souvent face à la droite et à un centre qui, finalement, ne le fait beaucoup moins. En revanche, ce que je pense qu'il y a peut-être, si on peut amener une dose d'optimisme face à la semaine prochaine, je pense que ce qui est en train de se passer en termes de dynamique, de campagne autour du nouveau Front populaire, c'est d'arriver à mobiliser des gens autour d'un programme de gauche. Donc, c'est-à-dire non plus que les gens, peut-être, votent pour faire barrage à l'extrême droite, ce qui, effectivement, ne fonctionnera pas, à mon avis, mais votent pour une politique différente de celle qui a été mise en œuvre ces 7 dernières années par la majorité présidentielle et une politique de gauche, une politique sociale qui défend les droits. Et là, je pense qu'on peut... Enfin, en tout cas, la coalition de gauche, le NPF, a réussi à mettre ensemble un programme cohérent en un temps record, ce qui, quand on regarde l'histoire de la gauche en France, est en général assez compliqué à obtenir.
À obtenir, tout à fait. Je voudrais, mesdames, qu'on se tourne, qu'on revienne maintenant chez nous. Oui. Je me tourne vers toi, Noliwe. Tu vas réagir à ce que tu viens d'entendre, mais je veux qu'on engage et tu garderas la parole parce que je veux maintenant qu'on parle de nous. Pourquoi est-ce que ça nous... J'ai envie de dire, pourquoi ça nous touche autant ? La preuve, on fait une émission aujourd'hui. Donc, avant de répondre à ça, tu voulais rapidement dire quelque chose, réagir à ce qui a été dit avant.
Oui, très brièvement. D'abord, je partage l'avis de Salim Atou et de Laurie, à savoir que le barrage, c'est une injonction qui ne peut plus fonctionner compte tenu de tout ce qu'on a vu, puis ce dont on a parlé tout à l'heure. Et puis, en fait, il y a une grande désinvolture de la part de la droite et notamment d'Emmanuel Macron vis-à-vis de la gauche, parce qu'en fait, ils ont toujours compté sur le sens des responsabilités de la gauche, et en fait, ça s'est matérialisé pour, peu importe les insultes, peu importe la mise à l'écart, peu importe la condescendance, finalement, on va toujours se ranger du côté des institutions, de la démocratie, etc., et assurer notre rôle de gardien, en fait, de la démocratie française. Or là, ce qui est vraiment inédit et intéressant, c'est qu'enfin, la gauche a réussi à offrir une alternative, de telle sorte qu'il n'y a plus de nécessité de barrage républicain. Les projections indiquent que la gauche devrait selon toute vraisemblance, se retrouver au deuxième tour dans de très, très nombreuses circonscriptions. Mmh. Et donc, par conséquent, la gauche a enfin une possibilité de faire entendre sa voix autrement qu'en participant à un barrage. Il faut quand même rappeler que ces dernières années, c'est le parti de la majorité qui a exclu complètement la France insoumise du barrage de l'arc républicain. Mmh. Donc ils les ont exclus de la possibilité de participer à cela, et puis tout à coup on les rappelle à leur responsabilité. Donc je pense effectivement que ça va pas fonctionner. Mmh. Pour en revenir à ce qui se passe au Québec, donc d'abord je pense que la première chose que j'ai envie de dire, c'est absolument, évidemment que ça nous concerne au Québec, parce qu'en fait, ce qui se passe en France concerne le monde. Ça affecte le monde. Ça fait des siècles que la France, ce qui se passe en France affecte le monde. La France a été une puissance coloniale, un empire colonial. Donc ça veut dire qu'elle avait les doigts dans les affaires du monde à l'échelle mondiale, et qu'elle a des institutions encore aujourd'hui qui portent dans l'imaginaire collectif la présence française à l'échelle du monde. Okay. Donc évidemment que ce qui se passe en politique française frappe les imaginaires, mais aussi les rapports, le discours, les débats d'idées. Et ici, au Québec, ce qu'on peut voir notamment ces dernières années, même sans remonter dans l'histoire, je pense notamment au cas de la rébellion des Patriotes, mais plus de manière plus contemporaine, les débats autour de la laïcité, mmh. les débats autour de l'immigration ont été fortement nourris, pour ne pas dire construits, par les débats qui ont eu lieu au préalable en France, que ce soit dans l'espace public, mais aussi dans la production des idées. Donc on le voit aujourd'hui, le regain nationaliste qu'on observe au Québec n'est pas sans rappeler aussi certains discours qu'on entend en France depuis une dizaine, voire une quinzaine d'années.
Donc ça vient un peu comme si ça venait à petite dose. Il y a une décomplexion, donc c'est ça, Bref, on est moins décomplexé là maintenant. Voilà, c'est ça. On dit un certain nombre de choses. Laurie, pourquoi ça nous touche autant? À part le fait que oui, il y a des Françaises comme vous là qui toujours, oui, le discours, les relations que nous avons, l'impact.
Oui, mais je pense qu'il y a aussi un autre, peut-être un autre point, c'est la question notamment de la posture du Canada sur la scène internationale et dans quelle mesure ces dernières années, la politique d'Emmanuel Macron était extrêmement tournée vers l'international. Donc je pense qu'il y a aussi cette posture-là de la France en Europe, mais aussi de manière générale à l'ONU, à l'OTAN, et notamment dans un contexte de conflit avec la Russie. La France d'Emmanuel Macron, enfin plutôt la France de Marine Le Pen ou de Jordan Bardella sur la place internationale sera probablement très différente en termes de posture, notamment vis-à-vis de la Russie, notamment vis-à-vis de la Chine, que celle d'Emmanuel Macron. Il sera beaucoup moins aligné, je pense, aligné avec la position du Canada. Puis là, on peut penser, c'est ça aussi avec ce qui a été mentionné avant, la perspective d'un retour de Donald Trump à la Maison-Blanche. Ça fait un allié de moins, dans le fond, je pense, pour le Canada, sur la question de la riposte à la Russie en Ukraine, des relations avec la Chine et d'un appui face à des États-Unis qui vont, eux, en fait, continuer à se retirer du débat international, possiblement. Mmh.
Je dis quelles sont les incidences qu'il y a sur nous, c'est que vous l'avez, parce que là je vois vous l'avez juste effleuré un tout petit peu, mais on commence à entendre. Moi je viens à ce discours par exemple qu'il y a de plus en plus sur l'immigration. On en parle même jusqu'au premier ministre qui en parle avec une désinvolture, si je peux me permettre, mais c'est vraiment, voilà, chaque matin, il y a une déclaration. Si ce n'est pas lié, ils ne sont pas responsables du soleil, ils sont responsables de la santé mentale, ils sont responsables, bref, de tous les maux de la terre. Et quand ça arrive dans un pays comme la France, justement, où on voit un Bardella, est-ce que ça ne conforte pas ailleurs? Est-ce que ça ne conforte pas les gens dans, justement, un certain type de prise de position, même les intellectuels qui voilà, aujourd'hui parlent avec beaucoup de liberté?
Bien sûr. Ouais. De toute façon, c'est ça. Il y a à la fois l'instrumentalisation de l'immigration, du fait migratoire pour défendre des thèses d'extrême droite, ou en tout cas des propositions politiques d'extrême droite. Mm-hmm. Il y a aussi l'élaboration d'une pensée. Je veux dire, la thèse du grand remplacement qui se diffuse à l'échelle internationale, y compris au Québec, parce que là, pour le moment, il n'y a personne qui s'en réclame vraiment, à part des groupuscules d'extrême droite qui n'ont pas pignon sur rue. Mais c'est encore sous-texte. Mm-hmm. Je veux dire, quand on entend certaines déclarations, par exemple, y compris du chef du Parti québécois qui s'inquiète, qui nous dit qu'en fait, il va soit choisir entre disparaître ou s'affirmer comme majorité. Je veux dire, moi, j'entends grand remplacement. J'entends la thèse du grand remplacement. Donc, ces idées-là qui jaillissent, en tout cas qui sont installés dans le débat public en France, font leur lit également à l'étranger. Et puis, ce qu'on voit aussi, c'est que les mouvements d'extrême droite sont de plus en plus internationalisés. Mmh. Donc, on voit des liens. Il y a eu scandale. Le Parti québécois, il y a quelques années, s'était défendu d'avoir envoyé une quelconque délégation à un congrès du Front national. Mais ce sont des jeunes militants du Parti québécois qui étaient très fiers de dire qu'ils étaient là, qu'ils étaient dans un échange d'idées, qui s'inquiétaient de la montée du progressisme au Parti québécois. Mmh. Donc l'appareil politique s'est dissocié de cela, tant mieux, jusqu'à quand je ne sais pas, mais en tout cas très clairement, il demeure que les liens, c'est ça là, je veux dire, il n'y a pas de contrôle sur les relations qui sont établies entre ces mouvements d'extrême droite à l'échelle internationale, donc évidemment que ça nous touche.
Mm-hmm. Laurie parlait aussi de communication à un moment donné qui est rentrée en jeu dans la normalisation, oui. J'ouvre de grosses guillemets aujourd'hui, mm-hmm. de notamment du Rassemblement national et de ces idées-là.
Oui, tout à fait, puis peut-être pour abonder complètement dans le sens de Nollywood, je rappellerai, je pense que c'est aussi Salim Matou qui l'a mentionné tantôt, le rôle joué par la droite en France, et notamment la droite de Nicolas Sarkozy, dans la stratégie de normalisation de ce discours-là, avec mm-hmm. l'idée affirmée, affichée, d'aller chercher les électeurs du... Mm-hmm. à l'époque Front National, mm-hmm. en utilisant les mêmes arguments, mais si on peut peut-être apporter ça au Québec, puis se dire, si on regarde comment ça s'est déroulé sur les 15 dernières années ailleurs, en France par exemple, qu'est-ce que ça nous dit aujourd'hui, c'est que je pense qu'il ne faut pas être naïf, il y a un risque réel à aller chercher ces arguments-là qui stigmatisent l'immigration, qui stigmatisent une partie d'une population, en disant, dans le fond, on veut juste ramener les électeurs mm-hmm. dans le giron, en France, dans le giron républicain. Mm-hmm. Mais ce qu'on voit, c'est que ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est que la droite classique en France s'est effondrée et mm-hmm. l'extrême droite a augmenté. Et notamment, ce qu'on voit aussi, les thèses du grand remplacement. Mm-hmm. Donc, qui sont des thèses nativistes à 100%, mm-hmm. Qui étaient auparavant celles du Front National. Aujourd'hui, le Rassemblement National vous dira, mais nous ne sommes plus, ce n'est plus nos thèses. Ce qu'il faut pour deux raisons. Un, quand on regarde le profil des candidats mm-hmm. du Rassemblement National pour les élections, là, dans une semaine, mm-hmm. il y en a une très bonne partie qui publiquement, sur les réseaux sociaux, dans leur communication, font état de ces arguments-là. Deuxièmement, là, j'ai envie de dire, la façade de cet argument-là en France, c'est le parti Reconquête d'Éric Zemmour, qui, oui, pour les élections anticipées, a choisi de ne pas faire alliance avec le Rassemblement Tout national, mais là encore, il ne faut pas se tromper. Bon, a priori, ils n'enverront pas de députés, mais on peut penser que ce sont des alliés du Rassemblement national. C'est deux petits pois dans la même coque. C'est simplement mm-hmm. que Marine Le Pen, dans une stratégie de diabolisation, a comme forcé vers, j'ai envie de dire, pour des raisons de communication, cette partie plus radicale du parti qui a créé un autre parti. Mais les influences sont là
sont tout à fait.
Et on le voit, toute la stratégie de communication, il y a beaucoup d'articles de presse qui montrent les liens, en fait, du Rassemblement national avec le GUD, notamment, mm-hmm. qui est un groupuscule
d'extrême droite armée, violente, de violence politique.
Donc ils ont encore des liens, en fait. Ces liens-là sont encore avérés, ont été condamnés par la justice l'année dernière, là.
Alors, on parle de...
Si je peux me permettre,
Salim Matou.
Oui, moi, je suis relativement nouvelle ici au Québec, mais j'encourage vraiment les Canadiens à préserver, à cultiver l'interculturalisme, de pas suivre les mauvaises politiques françaises, que ce soit sur la question du voile, parce qu'on l'a entendu ici, la question de la laïcité, qui est très instrumentalisée chez nous, ou même de l'islam, la place de l'islam. Est-ce que l'islam est sous libre avec les valeurs républicaines françaises? Depuis que je suis arrivée ici, j'entends beaucoup de choses en ce qui concerne la crise de logement, qui serait aussi en partie due à l'immigration, d'après ce qu'on entend. Mais j'aimerais juste souligner que le processus migratoire pour venir ici au Canada est assez complexe, et que le Canada a vertement une politique d'immigration choisie, qui sélectionne justement les candidats qui ont une expertise dans un domaine particulier. Et qui arrivent aussi à démontrer qu'ils sont à même de pouvoir subvenir à leurs besoins. Donc le Canada prend les talents du monde. Et il ne faudrait pas juste toujours imputer ou voir l'étranger comme étant le bouc émissaire de tous les problèmes de la société. Parce qu'on a aussi des talents. Et je pense que c'est aussi ça la problématique, c'est quand on parle d'intégration, il y a intégration versus assimilation. Mmh. Et c'est peut-être pour ça que ça bloque chez nous en France. Mmh.
Mais justement, je vais rebondir sur justement ce que tu viens de dire à la fin, c'est intégration, assimilation. C'est peut-être ça qui est l'un des échecs de la... je pense que c'est Glucksmann qui a dû le dire récemment, là, que j'ai suivi, où il disait qu'il y a eu un échec de la politique d'intégration en France depuis quasiment 40 ans. Il faut se l'avouer. Mais oui, rapidement, je veux que ton souhait, Salimatou, qu'il soit entendu, hein, que le Canada ne fasse pas, effectivement, ne réponde pas nécessairement à tout ce qui vient de la France. Bon, même si au Canada, il y a une situation particulière, parce qu'il y a quand même le Québec dans sa petite bataille avec le Canada, et que voilà, ça joue aussi, ça joue là-dedans. Je voudrais qu'on...
Mais c'est important parce qu'on entend déjà parfois sur le campus universitaire que les étrangers sont trop nombreux et qu'on vient prendre la place des Québécois.
Oui.
Donc, tu vois, la théorie ou en tout cas les thèses du grand remplacement, on les entend déjà.
Si, ça commence, effectivement.
Et on les entend sur le campus universitaire, donc... Toi, tu viens parce que tu dis, bon, bah, je viens quand même étudier ici, puis probablement m'installer aussi ici. Puis finalement, si tu viens ici, tu entends ce pourquoi tu as quitté la France, tu te poses des questions. Attends, est-ce que j'ai fait le bon choix? Parce que je ne suis pas prête à revivre ce qu'on vit en France ici.
Ben, je comprends. Alors, on va terminer. Oui, il y aura au soir du 7 juillet, c'est bien le juillet, Cyril, c'est pas juin, il y aura recomposition... politique, ça c'est clair. Est-ce qu'il y aura... Oui, il y aura recomposition politique, excusez-moi, il y aura recomposition politique, mais au niveau de la société, c'est-à-dire au niveau des gens, au niveau des électeurs, au niveau des Français, Françaises, là, est-ce qu'il n'y a pas eu... parce que j'ai vécu 2002, mais j'ai rarement vu une telle mobilisation, un tel intérêt pour ce qui vient de se passer. Et je voudrais qu'on termine là-dessus. Qu'est-ce que vous pensez que... Voilà, qu'est-ce qui va se passer? Salimatou, en deux minutes.
Ben, moi, je suis assez pessimiste, malheureusement. Et j'ai vraiment la hantise de voir le parti de Marine Le Pen à Matignon. Mmh. Donc, et je trouve que ce serait vraiment un grand recul pour la France, parce que la devise, c'est liberté, égalité, fraternité. Le terme de fraternité, il est lourd de signification. Fraternité, c'est-à-dire que je t'accepte dans ta différence. Tu es mon frère dans ta différence et je t'accepte. Là, clairement, on s'en va pas dans cette direction-là. Mmh. Au contraire, tout ce qui est différent est comme rejeté. Mmh. Donc,
oui. Espoir. Laurie Baudonnet.
Oui, ben moi aussi, j'ai vécu 2002, donc je dois dire que c'est...
T'es différent aujourd'hui.
Oui, l'évolution de ces 20 dernières années, ça rend extrêmement triste, là, sur un plan personnel, je trouve. Oui, c'est différent aujourd'hui. Ce qu'on voit quand même depuis la semaine dernière, cette semaine, c'est énormément de mobilisation, énormément de mobilisation de la société civile. Pour la première fois depuis très longtemps, plusieurs syndicats ont sont sortis de la réserve, ont appelé à voter pour le nouveau Front populaire. Et je pense que... Donc, il y a à la fois, je pense, un climat politique qui est extrêmement divisé, extrêmement clivant depuis 7-10 ans. On a parlé des gilets jaunes, des émeutes l'année dernière. Donc, il y a ce climat-là en France. Et on peut penser qu'au soir du 7 juillet, ce climat-là restera là encore. Si c'est l'extrême droite qui est en capacité de former un gouvernement, ça va... Dans le fond, la grande incertitude derrière, c'est... Dans quelle mesure est-ce qu'ils vont détricoter pendant 2-3 ans, ça sera... combien de temps ça va prendre pour aller récupérer ces droits-là qu'ils vont enlever? Si c'est la gauche qui gagne, c'est dans quelle mesure la gauche va être suffisamment efficace et mobilisée pour arriver à passer des lois qui vont changer le quotidien des Français pour qu'ils recommencent à croire dans des alternatives politiques réelles et qui ne retournent pas dans le giron du Rassemblement national aux élections suivantes.
Ne s'agit-il pas juste de répondre à la demande des gens qui veulent juste l'amélioration du pouvoir d'achat?
Ça, il y a une demande de justice sociale, je pense, très forte, à laquelle Emmanuel Macron et les différents gouvernements n'ont pas répondu ces 7 dernières années.
Noliwe. Dernier mot, avec, s'il te plaît, une projection sur, sur le monde.
Oui, c'est ça, je suis tout à fait en phase avec ce qui a été dit. Donc, je ne le répéterai pas. Moi, ce que je dirais, c'est que on verra. Hein, c'est difficile de savoir ce qui va se produire. D'abord, si la gauche gagne, ce qui est mon espoir, va-t-elle réussir à rester soudée? Parce que, encore faut-il, pour former le gouvernement, rester unie. Sinon, elle se redécompose et le premier parti va être le Rassemblement National, Front National. Donc, il y a cette question-là de la responsabilité. Mais entre-temps, moi, ce que je trouve, et moi, j'ai besoin d'espoir, j'ai besoin de me nourrir d'espoir. Ce que je vois, c'est, comme disait Laurie, la mobilisation sur le terrain de cette gauche souterraine qui reprend espoir parce que tout à coup, elle s'attend à avoir l'alternative, la possibilité de glisser un bulletin dans l'urne pour une option qui lui ressemble et qui ne soit pas juste de faire barrage. Et donc ça redonne espoir, ça redonne le goût. Néanmoins, les échos que j'ai de la campagne, de certaines personnes qui sont sur le terrain en France, c'est qu'elle est très, très dure, que la campagne est très violente, que c'est extrêmement difficile d'être audible. Donc on verra ce que ça va donner. Mais la mobilisation, je crois qu'elle est là. On le voit aussi avec des signaux comme les taux, le niveau record des procurations qui ont été signées. Alors on verra ce que c'est. Est-ce que c'est parce que c'est la période estivale en grande partie, c'est sûr que c'est un des éléments d'explication, mais je pense qu'il y a bien plus que cela. On pourra faire les analyses, on verra ce qui se passe, mais je pense que le regain d'espoir, il est là déjà. Maintenant, comment est-ce qu'on va transformer ça en véritable possibilité d'agir ensemble, d'agir collectif? C'est à nous collectivement d'en décider. Donc on verra bien ce qui se passe, mais moi je pense que déjà le simple fait qu'il y ait ce nouveau Front populaire, c'est la première fois que la gauche prend la mesure de ses responsabilités pour offrir une option au peuple de gauche.
Et je vais conclure en disant que ici, juste à Montréal, mais je pense dans tout le Québec, probablement dans le Canada, il y a quand même aussi une forte mobilisation. Il y a de l'affichage sauvage un peu partout, des affiches à gauche, à droite. Donc je pense qu'il y a une réelle mobilisation. On en saura un peu plus. Mais déjà le 30 juin, ça donnera une idée. Et puis une semaine après, on verra. Mais merci beaucoup à toutes les trois d'avoir permis un peu de comprendre et de voir en quoi ça peut avoir une influence sur nous ici, au-delà de, on voit un peu ce qui se passe, vous voyez ce qui se passe dans votre pays, puis nous on croise les doigts pour qu'au Québec, qu'on continue, je disais à un moment j'avais dit non, c'est plus seulement de la vigilance qu'il faut, c'est peut-être de l'action, c'est-à-dire qu'il faut que les gens voient ce qui est en train de se passer, entendent ce qui se dit et commencent à réagir sérieusement, parce que oui, même ici, dans un certain nombre de médias, il y a cette liberté, moi j'appelle ça cette liberté qu'ont certains chroniqueurs ou certains journalistes, dire les choses, surtout des thèmes clivants, le dire de manière très, j'ai envie de dire quoi, normale, naturelle et tout ça, donc il faut s'opposer à ça. Merci beaucoup, Salimatou Ismaël Tonkara, depuis Québec, où il pleut. J'espère que les activités de la veille de la Saint-Jean ont repris chez vous là-bas. Hein. Donc là, c'est bon, le soleil aussi est réapparu juste à la fin de notre conversation ici. Merci beaucoup à toi, Salimatou, on se dit à bientôt.
Merci
Laurie Baudonnet. Je rappelle que vous êtes professeure de sciences politiques à l'Université de Montréal, directrice du Centre Jean Monnet. Donc merci d'avoir participé à cette petite discussion. Merci Nolioué Delannon, merci. Puis qui sait, peut-être que je vais avoir besoin de vous le 7 au soir. Qui sait. Merci beaucoup mesdames et on se dit à bientôt.
À bientôt, merci.
Mon nom est Cyril Equala.